Vous écoutez RTL.
RTL, 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos et à la une. Emmanuel Macron veut réveiller l'Europe. Le président français présentait tout à l'heure dans le grand amphi de la Sorbonne son plan pour l'Union européenne, économie, défense, citoyenneté, tout y est passé. Dans cette plaidoirie pour une Europe plus simple, plus efficace, plus transparente, moins bureaucratique, mais à plusieurs vitesses, dit-il. Parmi les annonces fortes, un ministre de la zone euro, une convergence fiscale et sociale, la création d'une force d'intervention commune pour 2020, un parquet antiterroriste européen et un office européen de l'asile. Alors dans RTL Soir, on va vous détailler ce programme Macron pour l'Europe. Alain Duhamel se demandera si le président peut vraiment relancer à lui seul l'Union et on en débattra dans Refait le Monde. RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 18h.
Un homme jugé pour une relation sexuelle avec une fillette de 11 ans, mais pas pour viol. La justice considère que la relation était consentie. Explication dans un instant. Le chômage de nouveau en hausse, 22 000 demandeurs d'emploi supplémentaires au mois d'août, on ne s'en sort pas. Un pilleur arrêté à Saint-Martin après le passage de l'ouragan Irma, c'est une information RTL. Les gendarmes ont retrouvé chez lui une montagne de marchandises. À suivre également le soulagement pour les anti-vaccins. Il n'y aura pas de sanctions pour ceux qui ne respecteront pas les nouvelles obligations. Et puis le foot, Monaco-Porto ce soir en Ligue des Champions avec un petit air de revanche. La Bourse de Paris, elle termine quasi stable à 5268 points. Les courses à Compiègne, il fallait jouer le 6, le 9, le 16, le 4, hélas.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, les victimes du terrorisme indemnisées désormais pour préjudice d'angoisse, de mort imminente. Alors qui touchera quoi? Dans la foulée, affaire Maëlys, un mois après, l'enquête se poursuit. Premier invité d'RTL Soir, l'avocat des parents de la fillette, maître Fabien Rajon. Puis direction les coulisses de l'actualité. Allez, on va se mettre sur notre 31, top départ de la Fashion Week à Paris. On vous amène en coulisses, là où se décide la mode de demain. 18h35, 70 jours au milieu de l'Arctique, sur un mini catamaran sans cabine, entre les icebergs et les ours polaires. C'est le défi réussi, mais complètement dingue, d'Yvan Bourgnon, le navigateur qui a failli perdre la vie accoste tout à l'heure rue Bayard. Après 19h, le portrait du jour, celui de Gérard Collomb. Après 19h15, on refera le monde. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Marc-Olivier.
Soleil, douceur, sympa demain.
Mais oui, c'est une journée sympa qui s'annonce effectivement, si on ne se trompe pas dans les prévisions. Le soleil devrait s'imposer partout. Alors c'est vrai que le matin, il y aura quelques nuages bas, quelques brouillards. Pas d'inquiétude, en cours d'après-midi, tout ça se lèvera. Et l'après-midi, donc, on retrouvera un temps sec et très ensoleillé quasiment partout. Quasiment parce qu'il y aura quand même un peu plus de nuages sur la Bretagne avec quelques pluies. Et avec ce soleil, ben, les températures vont en profiter pour grimper. Alors pas le matin, on sera entre 8 et 12 degrés, mais l'après-midi, 20 à 24 degrés au moins dans la moitié nord et 24 à 27 degrés
dans le sud. Très bien, merci Louis, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Et cette question dans l'actualité, peut-on parler de relations sexuelles consenties à l'âge de 11 ans? Eh bien, cette question est au cœur d'un procès dans le Val d'Oise.
Un jeune homme de 28 ans est accusé d'avoir eu des rapports intimes avec une fillette en avril dernier. Pour la famille de l'enfant, il s'agit d'un viol, mais pour la justice, cette relation était acceptée. Bonsoir Guillaume Chiez.
Bonsoir.
Le fond de l'affaire, c'est que la fillette n'a pas résisté.
Exactement. Le jour de cette relation, Sarah a suivi l'homme de 28 ans jusque dans son immeuble. Ils ont eu ensemble 2 rapports sexuels. La jeune fille ne s'est jamais débattue, elle n'a pas appelé à l'aide. C'est fait, personne ne les conteste. Toute la question est de savoir si une fillette de 11 ans peut avoir une relation sexuelle sans contrainte, même morale. Si oui, comme le soutiennent l'avocat de la défense et les magistrats, alors le prévenu encourt une peine maximale de 5 ans de prison pour atteinte sexuelle. Sinon, il s'agit tout simplement d'un viol. Et là, la peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle. Karine Diebold est l'avocate de la famille de la jeune fille. Pour elle, il est évident qu'il y ait contrainte.
À mon sens, il y a une contrainte morale, compte tenu de la différence d'âge, de l'intimidation, de la pression naturelle que ça peut entraîner. Et elle, elle dit ce mot-là, elle a été bloquée. Alors du coup, elle n'a pas crié, elle n'a pas résisté, elle ne s'est pas défendue. Mais en même temps, c'est une enfant de 11 ans qui était face à un adulte. Et je ne sais pas jusqu'où on demande à un enfant de résister, mais en l'occurrence, c'était absolument impossible pour elle.
Au-delà de cette situation, l'avocate demande, comme c'est le cas dans de nombreux pays européens, à ce qu'un seuil soit inscrit dans la loi française, un âge limite en dessous duquel la question du consentement d'un enfant serait systématiquement rejetée. L'affaire concernant la jeune Sarah, elle, a été renvoyée. Elle sera jugée en février prochain.
Explication de Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Pour son 3e discours sur l'Europe, Emmanuel Macron avait choisi un cadre solennel et symbolique. C'était la Sorbonne.
Comme aux grandes heures contestataires, environ 200 jeunes s'étaient rassemblés devant la célèbre université biodiversité à l'appel de l'UNEF et des Insoumis. Quartier bouclé, gros déploiement policier. À l'intérieur, 800 personnes dans le grand amphithéâtre. Et sur l'estrade, le professeur Macron, plus enthousiaste que jamais. Christophe Decroix, vous êtes sur place pour RTL. C'est bien simple, le président veut tout refaire à la sauce européenne, du sol au plafond.
Oui, un très très long discours de plus d'une heure et demie qui se poursuit d'ailleurs avec des questions pour d'abord faire un constat.
L'Europe que nous connaissons est trop faible, trop lente, trop inefficace.
Il faut donc, estime Emmanuel Macron, refonder l'Europe. Tout y passe, la PAC, la sécurité, avec des idées comme la création d'un parquet européen antiterroriste, mais aussi un budget de la zone euro avec un ministre dédié. Mais ce que veut le président français, c'est recréer l'idée européenne en construisant une culture commune, par exemple dans nos armées.
Je propose ainsi à nos partenaires d'accueillir dans nos armées nationales, et j'ouvre cette initiative dans les armées françaises, des militaires venant de tous les pays européens volontaires pour participer.
Coordonner nos politiques, c'est le leitmotiv macronien, à commencer par la fiscalité.
J'ai deux propositions concrètes. La première sur l'impôt sur les sociétés. En Union européenne, nous ne pouvons pas avoir une telle divergence des taux d'impôt sur les sociétés. Cette divergence fiscale, elle aussi, nourrit une forme de désunion, désagrège nos propres modèles et fragilise toute l'Europe. C'est pourquoi je souhaite que nous puissions aussi définir d'ici le prochain budget européen en 2020, une fourchette de taux qui engagerait les États membres.
Mais aussi, dit-il, d'un point de vue social.
Nous devrions définir un salaire minimum adapté à la réalité économique de chaque pays, mais progressivement rentrer dans cette logique pour les faire converger.
Et si l'Europe ne se relance pas, estime le président Macron, eh bien demain, ce sont les nationalistes qui seront au pouvoir. Ça, c'est le message pour Angela Merkel qui vient de voir arriver l'extrême droite dans son Parlement.
À la Sorbonne donc pour RTL, Christophe Decroix. Et en attendant, la France peine à sortir du chômage de masse. Les chiffres du mois d'août ne sont pas bons, ils viennent de nous parvenir.
Le nombre de demandeurs d'emploi a progressé de 0,6%, soit 22 000 chômeurs de plus. C'est le deuxième mois consécutif de hausse après les 35 000 du mois de juillet. Forcément, Éric Vanier, c'est décevant.
Oui, très décevant, même avec le retour de la croissance. Le gouvernement pouvait espérer un effet bénéfique sur l'emploi. Eh bien, ce n'est pas le cas. Le ministère du Travail tempère en expliquant que ces chiffres, mois après mois, sont difficilement interprétables. Il faut prendre du recul et regarder ce qui se passe sur une plus longue durée. Mais justement, si on prend les trois derniers mois, on a toujours une hausse. Depuis les élections législatives, le chômage a augmenté de 1,3%, ce qui correspond en moyenne à plus de 15 000 demandeurs d'emploi supplémentaires par mois. Et ce ne sont pas les chiffres que l'on vient d'avoir qui vont nous rassurer. C'est la catégorie des 25-49 ans qui est la plus touchée, c'est-à-dire le cœur de la population active, et pas comme souvent les jeunes et les seniors. Et si on prend aussi la catégorie B, ceux qui voudraient un vrai travail mais ont dû se contenter de quelques heures dans le mois, là on a un bond de 2%. Clairement, la tendance du marché du travail n'est pas bonne.
Détail d'Éric Vanier du service économie de RTL.
RTL soir, il est 18h08.
Et après la pause, cette information RTL, un pilleur arrêté à Saint-Martin.
18h09, RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Et vous vous en souvenez, le gouvernement avait promis la plus grande sévérité à Saint-Martin. Un pilleur présumé vient d'être arrêté, c'est une info RTL.
Personne n'a oublié ces scènes de chaos après le passage de l'ouragan Irma, des magasins éventrés et dévalisés par des bandes parfois armées et menaçantes. Un homme haïtien a été arrêté et incarcéré il y a quelques jours. Et c'est un gros poisson, Olivier Bois.
Oui, un homme qui organisait et qui participait lui-même directement au pillage de magasins et d'habitations. Il avait été vu à plusieurs reprises pendant l'ouragan et juste après, circulant à bord d'un gros 4x4 Hummer noir dans les rues dévastées de Saint-Martin. Il est même suspecté d'avoir monté plusieurs équipes pour être plus efficace dans les pillages et lui récupérer ensuite tout le matériel. C'est un homme qui a été dénoncé. C'est comme ça que les enquêteurs de la section de recherche de Saint-Martin ont retrouvé sa trace jeudi dernier. Les renseignements étaient très précis et dès le lendemain, vendredi, les gendarmes, avec l'appui des hommes du GIGN, ont lancé une vaste opération d'interpellation. La perquisition a été pour le moins fructueuse. Le suspect avait complètement privatisé son immeuble. Des produits volés ont été retrouvés dans au moins 15 appartements, 40 mètres cubes de matériel, de l'électroménager, des produits de luxe, des bijoux et des sacs à main. Le jeune haïtien de 28 ans, pour le moment, nie les faits. Il a été mis en examen et transféré donc à la prison de Basse-Terre en Guadeloupe.
Information RTL, signée Olivier Bois. Finalement, le gouvernement lâche du lest sur la vaccination obligatoire, Isabelle.
Actuellement, 3 maladies sont concernées, mais il y en aura 11 dès le 1er janvier prochain. Face à la grogne des anti-vaccins, la ministre de la Santé a annoncé ce matin qu'il n'y aurait pas de sanctions en cas de non-respect des consignes. Huguette et René Biquel sont sont réfractaires depuis les années 70, mais ils ne sont qu'à demi rassurés.
C'est déjà une bonne chose, oui, mais si après les institutions demandent quand même la vaccination, ça ne permet pas de mettre les enfants à l'école ni de les mettre à la crèche.
Ils ont 2 ans et 5 ans et donc moi je voudrais pas qu'ils subissent autant de vaccins. Ça change pas grand chose. De toute façon, cette peine, on n'a jamais osé l'appliquer. Parce que vraiment, si on aurait voulu l'appliquer, il y aurait plein de gens qu'on peut déjà me mettre en prison. Et donc, ça ne change rien parce que pour les parents, le problème, c'est que pour les mettre en crèche et à l'école. Hein, donc là, il faut qu'ils aient le vaccin. Et ça, beaucoup de gens se posent des questions. Comment faire pour échapper dans les années 70, 80, je veux dire, avec mes enfants, je pouvais échapper plus facilement. C'est plus difficile de nos jours d'échapper au vaccin obligatoire que par le passé.
Réaction recueillie en Alsace, comme vous l'entendez, par Yannick Collin pour RTL.
La ministre Agnès Buzyn a également annoncé une hausse de l'allocation de garde d'enfants de 138 euros par mois pour les familles les plus pauvres. Elle serait destinée aux familles monoparentales. Par ailleurs, le forfait hospitalier va passer au 1er janvier à 20 euros au lieu de 18 actuellement. D'ores et déjà, les mutuelles prédisent une augmentation des cotisations.
Ça tangue au ministère de l'Éducation nationale après la démission du responsable des programmes ce matin.
Michel Lussault, c'est son nom, est un proche de l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem. Il est notamment l'artisan de la réforme du collège et des nouveaux rythmes scolaires, des mesures que le nouveau ministre a commencé à détricoter. Et Jean-Michel Blanquer n'est pas très ému par ce claquage de porte. Il le dit en exclusivité au micro RTL de Marie Guerrier.
Écoutez, c'est le choix de Michel Lussault de démissionner. J'ai entendu qu'il avait fait dans des termes outranciers. Le simple fait qu'il utilise des termes outranciers le disqualifie pour la fonction qu'il exerçait et donc il en tire les conséquences ne me gêne pas du tout et ce n'est pas un problème. Je suis dans un travail d'organisation de l'éducation nationale pour que tous les enfants sachent lire, écrire, compter, respecter autrui à la sortie de l'école primaire. Si ça gêne Monsieur Lussault, c'est vraiment pas grave qu'il s'en aille.
Jean-Michel Blanquer au micro RTL de Marie Guerrier. Les députés socialistes dénoncent une posture anti-Vallaud-Belkacem. Les routiers promettent de maintenir la pression jusqu'à jeudi, jour de leur rencontre avec la ministre des Transports. Mais dans les faits, le mouvement entamé hier à l'appel de la CGT et FO s'est éteint cet après-midi. Selon le gouvernement, la totalité des dépôts de carburant sont libres d'accès.
Allez, le foot, retour de la Ligue des Champions, c'est ce soir et c'est Monaco qui ouvre le bal.
Le club du Rocher, déstabilisé par l'affaire Ribolovlev, reçoit le FC Porto. Les deux équipes ne se sont plus recroisées depuis la finale 2004. Remporté très largement par les Portugais. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Monaco a pris modèle et aujourd'hui Michael Lefebvre, l'élève, est en train de dépasser le maître.
Oui, longtemps le FC Porto a impressionné de par sa capacité à former ou recruter de jeunes joueurs prometteurs pour les revendre ensuite très cher, le tout en restant performant sur l'échiquier européen. Sur les 5 dernières saisons, la balance achat-vente des Dragons montre un solde positif de 215 millions d'euros. Après avoir songé à une politique de recrutement galactique avec les Falcao ou autres James Rodriguez, les dirigeants monégasques ont vite changé de modèle pour rester dans les clous du fair play financier et ils se sont tournés tout naturellement vers le club portugais et ses ventes records. Si bien qu'aujourd'hui, grâce au transfert de Kylian Mbappé, l'ASM affiche un bilan positif de près de 200 millions d'euros. L'élève est même en passe de dépasser le maître puisque l'actif joueur des Rouges et Blancs, avec Lemar ou Fabinho par exemple, semble beaucoup plus intéressant aujourd'hui que celui de Porto. Mais surtout, avec une demi-finale de Ligue des Champions et le sacre en Ligue 1 la saison dernière, le club de la Principauté a démontré aussi qu'il pouvait faire du business tout en restant compétitif.
Merci Mickaël Lefebvre donc pour RTL à Monaco.
On vient de l'apprendre, c'est Martin Fourcade qui sera le porte-drapeau de l'équipe de France Olympique aux JO d'hiver en Corée du Sud. Martin Fourcade, c'est notre double champion de biathlon. Et pour terminer, vous vous souvenez sans doute de ceci.
Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut.
Gérard Palapra.
Mais oui, il vient de mourir, Gérard Palapra. Il avait 67 ans. Il était connu aussi pour une reprise, c'est moins connu, une reprise de Space Oddity de David Bowie qui était intitulée Un homme a disparu dans le ciel, en tout cas pour la fin du monde. C'était un tube en 1971.
A tout à l'heure Isabelle, vous revenez à 18h30, les clés pour bien comprendre l'actualité.